Le balado au boulot est une présentation du service du développement professionnel de l'Université Laval. On se met au boulot pour briser les mythes et répondre aux questions et aux préoccupations que nous avons tous en lien avec le marché du travail. Bref, on est là pour jaser de la vie professionnelle en toute simplicité et sans se stresser.
Bonjour et bienvenue à tous. Il me fait plaisir de vous retrouver pour un nouveau balado. Je me présente, Sandrine Gérard, je suis conseillère en emploi à l'Université Laval et j'aurai le plaisir d'animer ce balado qui va porter sur comment se préparer en fait pour une première expérience à l'international. Avec moi en studio, je reçois Annie Brulotte qui travaille à l'Université Laval aussi, comme moi. Et en fait, on va en discuter, on va vous aider aussi dans votre préparation pour votre première expérience à l'international. Bonjour Annie. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs et partager dans quel contexte tes étudiants te consultent pour ce genre de projet?
Bonjour Sandrine. Ben oui, bien sûr. Ben moi, je suis conseillère d'orientation au centre d'aide aux étudiants. Dans mon travail, je rencontre des étudiants qui se questionnent sur leur objectif scolaire, professionnel. Souvent, ils ont des intérêts pour intégrer l'international dans leur projet de carrière sans savoir tout à fait de quelle façon cette dimension-là va être importante dans leur vie au travail. Mm-hmm. Certains aussi veulent intégrer l'international dans leur expérience d'études. C'est pour cette raison-là que j'ai trouvé intéressant de participer au balado avec toi aujourd'hui pour aider les auditeurs à se poser des bonnes questions pour clarifier leurs projets.
Ah oui, c'est bon. Dans le fond, c'est ça. Moi, de mon côté, je suis conseillère en emploi. Et puis, ça m'a, dans le cadre de mon mandat, en fait, j'ai un mandat spécifique d'accompagner les personnes étudiantes à l'Université Laval, quel que soit leur programme d'études, et les aider dans leur préparation de projets à l'international. Puis souvent, les questions qu'on me pose, ou en fait, les raisons pour lesquelles les gens vont me consulter, c'est qu'ils ne savent pas nécessairement par où commencer. Donc, le balado, c'est un petit peu ça que je voulais faire avec toi, c'est qu'on puisse répondre à ce type de questionnement-là, de point de départ là, pour débuter son projet.
Ben oui. Pour commencer, j'aimerais juste préciser pour nos auditeurs que le balado s'adresse surtout aux personnes qui ont le goût de vivre une première expérience à l'international. On va aborder principalement ce qui concerne les expériences de travail. C'est ce qui touche davantage à notre domaine de compétences. Oui. Sandrine, pourrais-tu faire un petit tour d'horizon des différents types d'opportunités quand on souhaite vivre une expérience à l'international?
Oui, pour donner un peu le goût de partir. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est ça, il y en a vraiment, comme on pourrait dire, pour tous les goûts, mais ça dépend du type d'expérience recherchée. On peut trouver une expérience, par exemple, si on est étudiant en lien avec notre domaine d'études. C'est le cas de la plupart de mes clients qui souhaitent effectuer un stage dans leur domaine. Donc, ça va être crédité dans leur programme. Mais on peut aussi chercher un emploi qui n'a pas de lien avec son domaine pour payer, par exemple, son voyage, son expérience à l'étranger. Et puis, ça peut être aussi l'occasion d'avoir une immersion, de vivre une immersion linguistique. Donc, des fois, il y a des emplois, justement, qui ne sont pas des emplois qualifiés. Là. Je pense au programme de Disney, au programme Au Pair aussi pour faire du gardiennage à l'étranger ou le Club Med. On peut aussi, des fois, travailler sur une ferme pour gagner de l'argent, pour voyager, etc. Il faut se demander aussi si on veut une expérience plutôt de type structuré, c'est-à-dire qui est déjà... où c'est pris en charge, on va dire, organisé. Des fois, on peut avoir même une formation qui est offerte. Je pense particulièrement au projet de coopération internationale. Il y a même souvent le logement qui est fourni. Fait qu'en fait, ça, c'est juste un avant-goût, là, mais il y a plusieurs types de projets possibles. Puis le plus difficile, c'est de choisir.
Oui, effectivement. Puis ça va être là mon prochain bout parce que il y a tellement de possibilités. Donc, ce que je vais vous amener à réfléchir pour pouvoir prendre une décision en fonction de vous, de vos besoins, de vos motivations. Donc, c'est important, ça, de prendre contact avec ses motivations, puis les éléments aussi de connaissance de soi qui vous définissent. Je veux dire par là les intérêts, les valeurs, les traits de personnalité, les aptitudes aussi que vous possédez ou que vous voulez développer. Parce qu'un projet là, à l'international, ça le met à l'épreuve. Hein? C'est un bon défi. Fait que c'est une occasion à la fois de déployer de ce qu'on a, de se dépasser. Mais pour identifier un projet qui nous convient, c'est important que ça soit quand même ajusté par rapport à où on est dans tout ça. Donc, on va se poser des questions là, dans le balado à propos de ces sujets-là pour mieux identifier là, ce qui nous convient, comme par exemple des dimensions au niveau de notre tolérance à l'incertitude, notre capacité à gérer le stress, puis la capacité d'adaptation aussi. Là.
Oui, c'est vrai que ça fait appel à tout ça, un projet. Puis déjà, ben, par exemple, pour une première étape là, dans la réflexion pour définir un peu le projet qu'on voudrait faire, est-ce que tu peux nous parler de la motivation? Ça pourrait être quoi les mm-hmm. sources de motivation pour réaliser ce projet-là?
Ben oui, parce qu'il y a différents types de motivation qui peuvent nous pousser à aller vers ce genre d'aventure-là. Ça peut être d'ordre personnel, d'ordre professionnel ou humanitaire. Mm-hmm. C'est pas mal les trois principales, là. Donc, si on prend les motivations qui sont personnelles, ça peut être, par exemple, voir du pays, vivre une expérience unique, apprendre une nouvelle langue, découvrir des mentalités, des nouvelles cultures. Ça peut être partir à l'aventure et découvrir aussi qui on est. Je pense, par exemple, aux sessions d'études qui peuvent être intéressantes à intégrer. Un étudiant peut vouloir faire une session d'études en Espagne pour découvrir le pays, pour aller une première fois en Europe. Mmh. Ou ça peut être un étudiant qui est dans un programme, il a des cours de langue, mmh. peut avoir la possibilité de faire une session dans un pays où la langue qu'il étudie est parlée pour faire une immersion puis se développer, là.
Oui, c'est intéressant. Rien de tel qu'une immersion pour... pratiquer, en fait, hein, c'est souvent ça, là. C'est pas juste en classe. Puis, moi, j'aime bien aussi cette idée-là d'y aller, on va dire, mollo, de commencer par une expérience plus facile, surtout si on n'a jamais vécu d'expérience de travail à l'étranger, là, mais d'y aller dans le cadre de ses études. Souvent, il y a des choses qui sont plus structurées, des ententes qui sont faites avec d'autres universités, par exemple. Puis, on peut bénéficier d'une aide financière. Je trouve aussi que, par exemple, quand on est dans un milieu scolaire, tu sais, on va pouvoir se faire des amis. Il y aura des gens de l'international aussi, d'autres étudiants internationaux aussi. Fait que c'est vraiment plus facile au niveau de l'intégration sociale, par exemple, que d'arriver dans un nouveau pays puis de chercher un travail, particulièrement dans notre domaine. Donc, c'est une bonne opportunité pour commencer. C'est moins dépaysant puis ça permet, tu sais, comme tu disais tantôt, là, de sortir de sa zone de confort aussi. Mm-hmm. C'est un bon point.
Oui, puis on peut aussi avoir des motivations de type plus professionnel. Mm-hmm. Ça peut être de commencer à exercer la profession ailleurs, acquérir de l'expérience justement dans son domaine ou développer des compétences qui vont être transférables éventuellement dans votre domaine, découvrir des nouvelles manières de faire, faire face à des nouveaux défis, puis se connaître, se développer par l'entremise de cette expérience-là. Là.
Ça me fait penser dans certains programmes, c'est ça, ils ont plusieurs stages à faire. Puis des fois, ils vont en faire un déjà au Québec, mais on peut faire un stage aussi crédité dans son mm-hmm. domaine à l'international. Il faut, tu sais, vérifier quand même si c'est autorisé. Et puis, donc, des fois, même dans certains programmes, c'est obligatoire qu'il soit à l'international quand c'est un programme qui porte sur l'international. Donc, je trouve que c'est une bonne expérience de travail, mais il y a vraiment peut-être plus de préparation que pour une session d'études, dans le sens où on doit chercher un milieu de stage, il faut adapter son CV, etc. Donc, il y a plusieurs éléments. Pour cette raison-là, souvent, je pense que on peut les conseillers en emploi, ou moi particulièrement, dans mon mandat d'accompagner les étudiants pour ça. Puis, tu avais parlé d'un troisième type de motivation, Annie?
Oui, humanitaire. Ça peut être s'impliquer dans le tiers-monde, s'engager pour une cause qui tient à cœur. Donc, avec certaines de ces valeurs-là, ça peut être... la solidarité, la répartition des richesses, être touché par la pauvreté dans le monde et puis vouloir aider, faire une différence, puis aller s'impliquer dans un projet comme ça. Ça peut concerner les étudiants de tout diplôme, là, de tout programme d'études. Là.
Oui, c'est ça. Souvent, c'est méconnu. Hein. Je vois qu'il y a moins de gens qui parlent de ces options-là, de ces possibilités-là. Mais tu sais, on peut être en ingénierie, en administration, en droit, puis travailler dans le domaine de la coopération internationale.
Mm-hmm, ben oui.
On n'est pas obligé d'étudier spécifiquement dans ce domaine-là et de viser une carrière là-dedans. Là, ça peut être une belle expérience de vie et professionnelle, comme tu le mentionnais.
Avec ces compétences-là qu'on a développées, puis ça a une valeur, ça, après, pour l'insertion. Hein?
Exactement. Autant... sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Je veux dire, souvent, on apprend la débrouillardise, on relativise aussi et on reconnaît un peu tout ce qu'on a comme chance aussi de ce qu'on a au Québec, par exemple. Mm-hmm. Puis moi, j'aime bien c'est qu'il y a des programmes spécifiques là qui sont des fois même financés par le gouvernement. Tu sais, je pense aux programmes de stages internationaux pour les jeunes du fédéral. Il y a Québec sans frontières aussi, du provincial. Fait que, tu sais, c'est des mots, en fait, des programmes qui existent, qui sont financés. Donc, en fait, la personne, elle reçoit une allocation pour aller participer, pour s'initier à l'aide humanitaire ou à la coopération internationale. Puis il y a plein d'offres aussi sur le site de l'ACOSI, qui est l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Donc, je trouve que c'est structuré. Il y a souvent une formation qui est offerte, le logement et tout. Donc, c'est une belle première expérience, je trouve, pour s'initier à ce domaine-là. Là. Puis, donc là, on a fait un peu le tour des motivations, ce qu'on pourrait considérer comme la première étape pour faire un choix pour le projet. Puis, j'aime bien parce que tu as abordé les causes. Tu sais, souvent, quand on parle de coopération internationale, ben c'est la motivation qui est derrière tout ça, là, les valeurs. Ça serait quoi pour toi la deuxième étape dans notre réflexion? Donc, j'imagine les valeurs, mais il y a d'autres éléments dont tu as parlé, de la connaissance de soi.
Bien, continuer à prendre contact avec ses intérêts, avec sa personnalité, hein, dans le sens aussi de ses forces et de ses limites. Mm-hmm. Où est-ce qu'on veut se dépasser, puis d'une manière réaliste. Donc, on peut d'abord porter une attention particulière à notre capacité d'adaptation. Celle-là est très importante. Oui. Donc, porter un regard sur les expériences, tu sais, où vous êtes sorti de votre zone de confort pour vous connaître là-dedans. Ça peut être les courts voyages, les projets faits précédemment, ça peut aider. Donc, à quel point, vous posez la question, à quel point vous avez envie de vous dépayser, à quel point vous avez un intérêt pour l'incertitude, l'aventure, vos besoins de sécurité, confort, parce qu'il y a différents niveaux de défis là, vis-à-vis la capacité d'adaptation, puis il y a différents projets aussi là, liés à tout ça. Je vous donne un exemple, une expérience humanitaire où je vais travailler à la réfection d'une école au Nicaragua va être plus extrême en termes d'adaptation parce qu'il va y avoir plus d'écart au niveau culturel. On va être témoin de beaucoup de pauvreté, de souffrance. Il va y avoir plus de risques au niveau de la sécurité. Donc, ça va nécessiter une plus grande capacité d'adaptation puis aussi davantage d'équilibre psychologique à avoir puis à maintenir, à avoir avant le départ puis à maintenir une fois là-bas. Comparativement à travailler au père, qui pourrait être de garder des enfants dans une famille au Canada, il va y avoir un défi linguistique, mais ça va quand même être plus proche de notre réalité. Donc, tu sais, se poser ces questions-là, à quel point vous avez de l'expérience ou à quel point vous êtes à l'aise avec, avec l'incertitude, avec ces dimensions-là, c'est important pour bien définir le projet qui vous convient. Puis aussi, il y a les valeurs qu'on n'a pas abordées d'une certaine manière, c'est que quand on s'éloigne de notre culture, on peut être confronté à des différences, puis on peut être choqué aussi. Là.
Oui, quand c'est différent. Nous. Mais moi, ça me rappelle, tu sais, tu parlais du Nicaragua, mais c'est un projet dans lequel j'ai participé, dans le fond, un projet de coopération internationale, puis j'avais accompagné un groupe de jeunes. Et à un moment donné, une jeune était malade et je suis allée à la pharmacie avec mon collègue masculin. Et c'est moi qui parlais en espagnol au pharmacien, mais lui répondait seulement à mon collègue, comme s'il m'ignorait en fait. J'ai trouvé ça difficile, un peu déstabilisant. En fait, j'avais jamais vécu cette expérience-là, donc c'est un bon exemple de...
Ah oui.
De choc des valeurs, on va dire.
Oui. Puis justement, ben, ça m'amène aussi à parler des forces qu'on a pour, je le disais tantôt, pour s'appuyer sur les compétences, les habiletés particulières qui est important de développer ici au Québec dans son quotidien en prévision de ces projets-là. Donc, je vais vous parler de 5 compétences transversales qui sont définies là, selon le guide acquis là, de l'organisme logique. Ça, oui. C'est les Offices jeunesse internationaux du Québec. C'est une belle référence. Donc, eux, ils parlent, une première compétence, c'est l'ouverture d'esprit. Donc, d'être en mesure de s'ouvrir à la différence, d'avoir de la curiosité pour les autres cultures que la sienne, s'intéresser aux autres, la capacité à aller vers l'inconnu. Puis quand vous êtes dans le contact, être en mesure de respecter les opinions qui sont différentes, là. Les prendre en considération dans une attitude plus de bienveillance, de non-jugement, parce qu'à l'international, on est évidemment confronté à d'autres façons de faire. Il y a aussi l'adaptation au changement.
Oui, tu peux te donner, tu sais, je pense à des exemples justement de des fois d'étudiants qui sont à l'international, puis avec qui j'ai des contacts, puis qui sont des fois un peu, on pourrait parler de pratiquement de choc culturel là, mais
oui.
Parce qu'ils sont en train de s'adapter, mettons, dans leur session d'études, puis mettons, je pense en France, il y a un étudiant qui était en France, puis il voyait que les pauses s'étiraient, donc tu sais, c'est pas la même ponctualité nécessairement peut-être que ce qu'il avait l'habitude au Québec. Il fallait qu'il attende beaucoup plus longtemps pour ouvrir un compte bancaire, qu'il avait des procédures administratives, tu sais, on appelle ça un peu la lourdeur administrative qu'il y a beaucoup dans beaucoup de pays. Donc tout ça, ça, des fois, ça peut, comment dire, être un peu déstabilisant, puis amener une certaine fatigue, puis amener à critiquer justement le pays d'accueil ou les gens dans le pays d'accueil.
Ben oui, puis ouais. Tout ça, c'est déstabilisant, puis ça nécessite beaucoup d'énergie.
Oui.
C'est normal qu'il y ait une certaine fatigue au début, là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, de s'entraîner, disons, à la bienveillance, le non-jugement, mm-hmm. autant pour les autres que pour soi,
oui,
tu sais, qui trouvent ça difficile, ça va être des ressources importantes, là.
Oui, tout à fait.
Mm. Oui, c'est ça. Fait que je m'en allais vers l'adaptation au changement parce que on est confronté là à plein de situations qui font appel à la débrouillardise. On va rencontrer des difficultés d'orientation, être perdu dans une ville, avoir des problèmes avec le système de transport. Mm-hmm. On peut se faire voler. Hein, il y a de l'inattendu.
Ça peut arriver ici, mais ça peut arriver aussi ailleurs.
Ah oui, ça peut arriver partout. Donc. Déjà, vous regardez aller puis vous engagez dans des nouvelles tâches, dans des nouvelles activités, mm-hmm. développer votre créativité pour faire face à des problèmes, développer la débrouillardise pour trouver des solutions. Parce que là, quand on est à l'étranger, à l'international, on est seul.
Oui.
Fait qu'on on est confronté à nos propres ressources. Là,
oui, on ne peut pas appeler notre conjoint, veux-tu venir me dépanner ou
oui.
quelqu'un de notre famille, oui.
Nos proches sont loin.
Ils sont plus loin aussi. Oui, puis ils risquent d'être des fois plus inquiets que nous.
Ils n'ont pas nécessairement les possibilités de nous aider concrètement, mais c'est une belle occasion là, d'être avec soi-même pour mm-hmm. Rencontrer des difficultés. Puis on peut même être surpris parce que ça donne une occasion de se découvrir avec tout ce qu'on a comme force. Là.
C'est vrai.
Ensuite, un autre point très important que je veux vous parler, c'est le sens des relations interpersonnelles. Parce que, justement, en étant seul ou dans un autre contexte, on va devoir aller vers les autres. On va devoir aller intégrer une famille, une colocation, une équipe ou des gens avec une barrière linguistique. Donc ça, c'est pas évident. Donc, de savoir nouer des relations avec les autres, de s'engager au sein des groupes, ça va être très important. Donc, développer ses capacités d'écoute, de faire preuve d'empathie, puis toutes les habiletés de communication interpersonnelle, ça va être très utile.
Oui, c'est vrai, c'est un besoin fondamental là, de créer un réseau, puis de sortir de la solitude, on va dire.
Mm-hmm.
Ça peut être une bonne source de motivation. Puis là, tu as parlé de plusieurs forces, en fait, ou qui vont être nécessaires quand on fait un projet. L'importance de les développer même avant de partir. Est-ce que tu as des suggestions de quel type de choses qu'on pourrait faire justement pour bien se préparer puis donner la chance de vivre une expérience positive à l'international?
Ben oui, parce que il y a tout plein d'occasions là, ici. Là, je vais vous en nommer quelques-unes. Donc déjà, de débuter des loisirs qui... favorise la découverte d'autres cultures. Ça peut être de fréquenter des lieux ou participer à des activités multiculturelles. Je pense à la danse, la musique, le cinéma. Ça peut être des cours de cuisine. Un festival aussi peut nous amener vers ça. Ça peut être des activités personnelles, donc intégrer de la lecture, des documentaires qui portent sur un pays, sur les différences culturelles. Aller voir des blogs, des vidéos d'expatriés, de voyageurs. Ensuite, je pense à assister à des conférences, des rencontres, congrès, colloques, toujours en lien avec cette thématique-là, des grands voyageurs ou une carrière à l'international. Il y a beaucoup de possibilités dans ce sens-là. On peut aussi devenir membre ou s'impliquer dans des associations reliées à nos intérêts, nos valeurs, un organisme de développement international. Puis il y a même un programme de jumelage là, à l'Université Laval. C'est une belle occasion, ça aussi.
Oui, oui, oui. Oui, puis des fois, ben, justement, je pense à des étudiants qui souhaitent aller, mettons, je pense à la France, mais Si on est jumelé avec quelqu'un qui vient de la France, justement, ils peuvent avoir accès à de l'information sur comment ça se passe, par exemple, la recherche de stage là-bas. Est-ce que c'est compétitif? C'est comment on doit procéder, tout ça. Est-ce que les stagiaires sont rémunérés? Des choses comme ça. Donc, c'est de l'information précieuse. Ou même, tu sais, quand tu parles de conférences, moi, ça m'est arrivé d'aller assister à une conférence où c'est des gens qui ont vécu plusieurs expériences à l'international. Et puis, après la conférence, on pouvait aller leur parler. Donc, ils travaillent ici, mais ils ont un gros réseau de contacts. Là. Donc, ça peut être encore une bonne façon de se trouver peut-être un milieu d'accueil si on cherche un stage. Fait qu'on a fait pas mal de tours des éléments au niveau de la connaissance de soi. Moi, j'aimerais ça qu'on parle aussi on pourrait dire, des facteurs de réalité. Parce que c'est ce que je remarque aussi, là, tu sais, quand dans les consultations que j'ai, que les gens sont motivés, ils considèrent avoir les aptitudes des fois pour faire un projet comme ça, mais finalement, quand je fais un sondage pour faire un suivi de ce qu'ils mènent à bien leur projet, presque la moitié ne vont pas le réaliser pour différentes raisons. Des fois, c'est externe à leur volonté, là, et des déménagements ou des facteurs comme ça, environnementaux. Mais parfois, c'est aussi d'autres raisons comme le manque de temps par rapport à justement si tu es aux études, tu dois te concilier avec un travail, donc tu n'as pas toujours le temps de préparer ce genre de projet-là. Ou ça peut être aussi l'argent qui peut être une cause aussi.
Oui. Mm-hmm. Donc, peux-tu nous en parler plus, Sandrine, justement, ces deux dimensions-là? Comment se préparer vis-à-vis le temps et l'argent pour éviter justement de pas compléter le projet là?
Oui, le temps, il y a plusieurs choses, mais tu sais, ça dépend du type de projet dont on parle, mais particulièrement là, je pense souvent au stage puisque c'est la raison première des consultations que j'ai. Faut être conscient qu'un projet à l'international, c'est plus qu'une recherche de stage, c'est aussi faire des démarches administratives pour obtenir, par exemple, un visa, parce qu'il faudra avoir un permis de travailler dans le pays en question. Falloir faire une recherche de logement. On sait qu'en ce moment, le contexte de crise de logement n'est pas juste dans notre région, là, mais dans plusieurs, surtout grandes villes. Donc, ça prend du temps quand même. Donc, il faut concilier tout ça avec nos autres activités aussi. Donc, on peut choisir de faire affaire avec une organisation qui va peut-être plus nous épauler et tout, mais souvent, c'est des organisations privées qu'il faut payer pour le service. Par exemple, pour être placé dans un milieu de stage, et ça existe, là, des organisations qui font ça. Mais des fois, ça peut valoir la peine, surtout si le stage est rémunéré par la suite aussi, là. Donc, avoir une idée, là, ben, au moins, je dirais d'y s'y prendre quand même... idéalement, deux sessions, 6 mois d'avance là, pour commencer. Puis, en fait, on s'y prend jamais trop tôt là, dans notre recherche, là, parce qu'il y a beaucoup de recherches d'informations, de bien comprendre. Tu sais, quand on parle d'un pays, ça peut se faire différemment d'un pays à l'autre. Donc, déjà déterminer où est-ce qu'on veut aller, tout ça. Il y a aussi ce que je voulais dire, que des fois, ben, si on parle encore là de stage, des fois la période pour réaliser son stage, elle est différente d'un pays à l'autre. Mettons l'hémisphère sud, l'hémisphère nord, on n'a pas l'hiver ou l'été, c'est pas en même temps, en fait, c'est à l'opposé. Donc, ça se peut que par rapport à nous, ce qu'on avait envisagé, mettons de faire plutôt le stage l'été, ben, que ça tombe l'hiver dans un autre pays, puis que c'est pas là où il y a le plus d'offres de stage aussi. Là, je pense à l'Australie, Nouvelle-Zélande. Donc, c'est important de considérer tout ça aussi, puis de voir un peu ce qui est exigé dans notre programme d'études. C'est quoi la durée du stage qui est prévue? Parce que dans certains pays, ils vont vouloir qu'on reste plus longtemps, mettons, dans un milieu de stage pour qu'il y ait un retour sur investissement, on va dire, de la formation du stagiaire. Donc, c'est à discuter, parce que ça peut être possible aussi de prolonger ou que ça devienne un emploi par la suite aussi, là, mais voilà. Donc, je ne sais pas si...
Ben, ce que je comprends, c'est qu'on doit s'y prendre quand même d'avance, mais qu'il y a plusieurs délais possibles. Hein? C'est pas évident de savoir le temps nécessaire, là, mais ça dépend du type de projet. Puis j'imagine qu'il faut bien s'informer là, sur les dimensions à s'occuper propres au projet. Là.
Oui, puis c'est vrai que des fois, ben, en fait, on peut se demander où on va chercher l'information.
Oui,
dans le fond, c'est un petit peu comme au Québec aussi, là, quand on veut faire une recherche, mettons, de stage, où est-ce qu'on trouve l'information sur le marché du travail, sur les possibilités, tout ça, c'est beaucoup en consultant des offres de stage. Mais tantôt, j'ai parlé aussi de parler avec des gens du pays en question. Donc, ça peut être ça, là, d'utiliser notre réseautage, que ce soit des profs, des étudiants ou des gens qu'on connaît qui sont allés dans le pays ou qui vivent déjà dans ce pays-là. Puis, on peut utiliser aussi des groupes Facebook d'expatriés. Moi, j'aime ça donner ce truc-là, parce que c'est rare les gens qui y pensent, là. Mais on le fait pour les voyages déjà, là, de trouver des groupes de gens qui vivent dans le pays. Souvent, ils vont avoir des bons conseils à nous donner, puis ils sont ouverts aussi à le faire parce qu'ils ont vécu le même type de préparation pour leur expérience aussi. Donc, ça permet d'éviter aussi certaines erreurs communes, on va dire.
Mais quand on est aux études, est-ce qu'il y a un moment préférable pour commencer la préparation de son projet?
Oui, ben, comme je disais, là, c'est idéalement 2 sessions avant ou si on a plus de temps, c'est mieux. Puis c'est vrai que tu me fais penser que des fois, il y a des programmes spécifiques, tu sais, comme si on veut travailler dans une organisation internationale, je pense à l'ONU ou des grandes organisations comme ça, des fois, c'est longtemps d'avance, c'est 1 an, voire 1 an et demi d'avance quand il y a des offres de stage qui sont publiées. La première étape, c'est vraiment la recherche d'informations, déterminer, comme on l'a dit, son projet. Et puis, des fois, il va évoluer aussi, comme tout projet, là, par rapport à ce qu'on va trouver. Puis, quand on va évaluer le réalisme de faire ce qu'on veut, il y a toujours l'étape par la suite aussi de valider avec l'université si on est aux études puis qu'on veut créditer son stage. Donc, il y a des étapes supplémentaires aussi. Comme à l'Université Laval, on a un registre de mobilité aussi. Il faut s'inscrire à ce registre-là quand on fait un stage hors Québec. Mais le visa, ça dépend des pays. Des fois, ça peut demander plus de temps aussi, là, quelques mois. Là. Ça coûte de l'argent aussi. Là.
OK. Puis tantôt, on parlait du budget aussi comme un deuxième facteur de réalité à considérer. Donc, ça doit être important de savoir combien d'argent je dois avoir là, pour réaliser mon projet. Parce que j'imagine aussi qu'un projet international, ça coûte cher. Puis on n'a pas toujours de revenus. Des fois, on en a, mais peut-être que ça ne compensera pas pour les dépenses. Il y a l'hébergement, les coûts d'inscription à certains programmes. Tout à l'heure, tu parlais de l'obtention du visa. Puis je pense aussi au coût de la vie qui est plus élevé à l'international la plupart du temps. Connais-tu des ressources d'aide financière, toi, Sandrine?
Oui, c'est vrai. Puis des fois, tu sais, je pense au stage où c'est pas toujours rémunéré comme ça l'est au Québec. Hein. Mm-hmm. Donc, ça, il faut aussi des fois démystifier ça. Parfois, il y a même des lois dans le pays en question où on ne doit pas rémunérer les stagiaires parce que c'est vu comme une formation, un stage. Donc, ça, c'est des choses à s'informer. Mais en termes de ressources financières, tu as parlé de logique tantôt. Les offices jeunesse internationaux du Québec, ils offrent des montants forfaitaires aussi pour différents types de projets. C'est à s'informer sur leur site web. Et puis, l'Université Laval, il y a le bureau international qui offre des bourses de mobilité. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, on a le bureau des bourses et de l'aide financière aussi qui a un répertoire de bourses et d'aide financière. Donc, en fait, on peut aussi aller explorer sur leur site. Il y a toujours des critères pour recevoir des bourses. Des critères, ça peut être variable, le nombre de crédits qu'on a dans notre programme. Ça peut être notre statut d'étudiant, etc. Donc, ça peut quand même nous aider payer, en fait, c'est ça que je voulais dire, payer une partie de nos frais. Mais il faut se faire un budget, hein. Il y a pas, c'est sûr, parce que même le coût de la vie, tu disais là, des fois, c'est ça, c'est en Europe, c'est plus cher généralement le coût de la vie. Mais on peut comparer d'une ville à l'autre aussi, parce que peut-être en Europe, dans un petit village ou une grande ville, ça sera pas le même prix. Puis il y a un site comme ça, la Numbeo, là, qui peut donner un ordre d'idée. Mais il faut faire attention aussi, parce que t'es vérifié aussi avec des annonces de logements ou autre pour s'assurer que c'est bien ça. Donc, ça c'est un point important, le budget comme comme le temps.
Et une autre question aussi que les étudiants se posent, c'est à propos du choix de la destination. Oui. Parfois, certains veulent rester ouverts à toutes les destinations, d'autres veulent préciser. Quelle est la meilleure stratégie?
C'est vrai que ça arrive souvent, que quelqu'un a une destination très spécifique. Puis là, c'est un peu comme on disait tantôt, là, ça se peut que la personne se rende compte que c'est pas faisable pour diverses raisons. Quand on a une idée très précise, un peu comme dans la recherche d'emploi, si on vise à un poste particulier et si on manque d'ouverture, ben peut-être qu'il faudrait avoir un plan B là, parce que pour ne pas se décourager, pour ne pas abandonner son projet parce que ça peut évoluer en cours de route ou si ce n'est pas réaliste, comme je disais, mais aussi d'avoir aucune destination en tête, de dire « moi, je suis prêt à aller partout ». Moi, ça me donne le vertige, personnellement, parce que c'est vaste, le monde, là. Mm-hmm. Mais généralement, on peut quand même avoir une idée de une, deux, trois destinations, puis être flexible, justement, par rapport à ce choix-là, là, mais avoir quand même une petite idée, là, où est-ce qu'on s'en va. Ne serait-ce que pour ce que tu as parlé tantôt, là, la capacité d'adaptation, c'est pas la même d'un pays à l'autre. Mm-hmm. Le coût de la vie, c'est différent, oui.
Aussi, ça peut être basé sur les compétences linguistiques aussi, hein, oui, j'imagine. C'est un élément important. Être mm-hmm. capable de communiquer avec les gens, donc il faut avoir une capacité pour pouvoir le faire. Puis aussi, si on veut travailler dans son domaine, ben, ça peut aider là, à avoir aussi le vocabulaire puis les compétences pour ça. Donc, il y a la langue parlée au travail, puis il y a la langue parlée aussi dans la vie quotidienne, à tenir compte là, dans le milieu qu'on va choisir, là.
Oui, comme dans les pays nordiques, là, Suède, Norvège et autres, souvent on peut quand même trouver un emploi où on parle anglais, mais dans la vie quotidienne, c'est sûr que ça peut être intéressant quand même de connaître, d'être vraiment en immersion, puis de se faire des amis, puis d'apprendre la langue aussi. On peut se donner justement, si on se dit qu'on se prépare un an d'avance, ben de se prendre des cours de suédois, ça peut être intéressant, effectivement. Ça va nous aider à avoir un fameux réseau de contacts aussi, là.
Oui, puis de connaître le contexte du marché du travail et mm-hmm. la destination là, qu'on va choisir. Là. Fait que d'être au courant des opportunités, des taux de chômage, des perspectives d'emploi, les conditions de travail aussi, puis est-ce que le marché est compétitif? Là?
Oui, je me souviens d'une personne qui voulait aller enseigner dans un pays où elle disait « Ah, ben, j'ai vu un article où il y avait beaucoup de demandes », mais finalement, quand on a bien lu l'article, il y avait beaucoup de demandes parce que les conditions de travail étaient déplorables, donc les gens ne voulaient pas être prof, finalement. Mm. Donc oui, c'est ça, c'est d'avoir des bonnes informations, les bonnes sources d'informations. Puis là, on parle de destination. Des fois, certaines personnes viennent me voir en nommant un pays plutôt qu'un autre parce que dans le cadre de leurs études, par exemple, ils ont appris que, par exemple, la Suisse avait beaucoup de centres de recherche, puis c'est le cas. Donc, dans leur domaine, ça peut être un pays intéressant à cibler. Alors, ça peut être le pays est renommé pour ses avancées technologiques dans son domaine, par exemple. Ça peut être intéressant quand tu reviens au Québec de faire valoir ces compétences-là dans ton CV. Moi, je pense aussi qu'il y a des fois des conditions particulières pour des métiers réglementés. Donc, avoir aussi les façons de faire, si elles sont proches des nôtres ou autres. Si on va avec la motivation plus d'ordre professionnel, comme tu nommais tantôt, ça peut être important aussi.
Mm-hmm. Oui, puis il y a la sécurité qu'on a glissée aussi. Là, mm-hmm. Et, le site levoyage.gc.ca est très bien pour informer justement sur le niveau de sécurité en lien avec les pays, là, mm-hmm. Selon notre contexte aussi. Est-ce qu'on voyage seul, à plusieurs? Est-ce qu'on est un homme, une femme? Donc, les avantages, les inconvénients vont être différents selon la région où on va. Puis on peut penser aux besoins d'espace, d'intimité, les éléments géographiques comme le rapport à la chaleur, au froid, l'humidité, l'altitude. Est-ce qu'on va être dans une région éloignée, dans une grande ville? Tout ça, là, vous allez trouver l'information là, sur le site. Mm-hmm. Donc, j'ai l'impression qu'on vient faire le tour des questions à se poser pour bien définir le projet. Une fois qu'on sait plus qu'on veut, quelles sont les autres étapes pour le préparer? Par où commencer pour la mise en œuvre du projet, selon toi, Sandrine?
Ben, comme je disais tantôt, c'est vraiment... Moi, je vois ça comme beaucoup d'abord la recherche d'informations pour savoir dans quoi on se lance. En fait, on a parlé de différents types de projets, de programmes. Donc, on peut aller faire une recherche sur les programmes qui existent. On a un moteur de recherche sur notre site, le site du service de développement professionnel. C'est Going Global, donc c'est vraiment spécialisé pour l'international. On peut voir des guides pays, le prix des logements, la culture, et de l'information sur comment faire son CV pour chaque des pays qui sont recensés dans ce guide-là. On peut aussi s'informer sur les démarches administratives qu'on aura à faire, c'est quoi les conditions d'entrée pour travailler aussi dans le pays en question, par exemple. Il y a un programme qui s'appelle Expérience internationale Canada, où c'est des ententes de réciprocité pour la mobilité des jeunes, généralement entre 16 et 35 ans, dans plus d'une trentaine de pays. Ça permet d'obtenir un visa plus facilement, puis surtout que tout est sur une page, on clique dans le menu déroulant le pays qui nous intéresse, puis après ça, on est dirigé vers la page du pays en question. Donc, c'est intéressant comme d'utiliser cette recherche-là pour trouver comment ça fonctionne pour le visa, les démarches, le coût que ça va représenter aussi. Donc, ça, c'est les exemples de démarches par où commencer, on va dire. Puis, ben, par la suite, c'est sûr qu'on n'en a pas parlé beaucoup, là, mais c'est sûr qu'on aura à faire une recherche de logement, voir au niveau de tout ce qui est les assurances. Et puis, la langue, tu en as parlé aussi un petit peu, là, si on doit apprendre une autre langue ou se perfectionner dans une langue, dépendamment de notre projet. Puis, les aptitudes dont tu as parlé aussi tantôt. Moi, je suis conseillère en emploi, donc c'est sûr que pour quand on parle d'une recherche de stage ou d'emploi, ben, je vais aider peut-être la personne à adapter son CV. Et puis, chaque pays peut avoir des exemples différents. La lettre aussi. La façon de faire les entrevues dans une hiérarchie plus forte, ça peut être différent aussi. Donc, il y a beaucoup d'informations sur le site Going Global quand même. Mais on peut aussi, moi, je fais des recherches souvent à ce moment-là avec les personnes concernées sur des sites d'université, un peu comme nous, dans d'autres pays, pour nous aider. Donc, après ça, ben, quand on a fait notre recherche, c'est sûr qu'on peut toujours voir notre conseillère pour nous aider là-dedans. Alors, j'ai l'impression, tu as dit, on a fait le tour. Là, on en parlait un peu plus de la préparation pour mettre en œuvre son projet, donner un avant-goût. J'espère que ça a donné le goût aux auditeurs ou même d'être plus conscient de tout ce que ça implique aussi pour préparer un projet à l'international. Donc, je rappelle aux auditeurs aussi que, comme toujours, vous êtes invités à poser des questions, à nous écrire par courriel ou à amener des commentaires ou des suggestions de sujets. Donc, merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous et à bientôt.
Merci à toi, Sandrine. Merci à tous. À bientôt.